Chapitre 16. Il ferait envie même au bon Dieu. Sherlock Holmes appuya sur le bouton de la sonnette électrique ultra-sophistiquée de Henry Adams, tard dans la matinée, environ une heure après le départ du train de James pour New York. Hobson ouvrit, et le grand majordome ne se montra guère plus accueillant que la fois précédente.
« Monsieur Adams est dans son bain !»
annonça Hobson en faisant mine de lui fermer la porte au nez.
« J'attendrai, »
dit Holmes en se dépêchant d'entrer. Tendant son chapeau et sa canne au majordome en passant, il ajouta
« Je vais m'asseoir dans son bureau. »
Pendant que Hobson, déconfit, allait avertir son maître, Holmes entra dans le sanctuaire d'Adams et se servit une généreuse rasade de scotch coupée d'une goutte d'eau, puis s'installa confortablement dans un fauteuil devant l'immense étendue de cuir vert du bureau. Il prit la visée avec deux doigts face à la résidence présidentielle. On voyait parfaitement par la fenêtre l'ancien bureau de la sœur de Cleveland, remplacé depuis par Mademoiselle Frances Folsom, la jeune épouse du président, âgée de 21 ans. Cette différence d'âge de plus de 27 ans, Cleveland ayant 49 ans au jour du mariage, aurait pu choquer. Et si l'âge ne comptait pas, alors les circonstances, quelque peu inhabituelles, auraient pu perturber les gens. En effet, Cleveland n'était autre que l'exécuteur testamentaire du père de Frances, Oscar Folsom, et avait dirigé l'éducation de la petite orpheline à la mort de ce dernier. Il avait commencé par lui offrir le landau jaune dans lequel on l'avait promené bébé et n'avait cessé depuis de la couvrir de cadeaux. Holmes avait assisté à la réunion de la commission de l'inspection des vapeurs ce dimanche matin. Seul l'ancien divisionnaire de la police métropolitaine, William J. Brock, manquait à l'appel, remplacé par le sergent Daniel O'Malley, chef des 27 hommes de la garde de la Maison-Blanche. Et tandis que M. Rockhill, l'interlocuteur du département d'État, se plaignait de n'avoir pas pu aller à l'église, Holmes demanda au vice-président Stevenson où il serait le 1er mai, vers midi, à l'heure où le président Cleveland devait appuyer sur le bouton qui déclencherait les réjouissances à l'Exposition universelle de Chicago. Le vice-président réfléchit et consulta son agenda de poche.
« Eh bien, je serai à la résidence présidentielle à partir de 10h30, » répondit-il, « jusqu'au milieu de l'après-midi. » La journée commence par une réunion avec les délégués des Philippines, ensuite il y aura un déjeuner en leur honneur, puis la cérémonie de signature de l'accord que nous devons passer avec leur gouvernement.
« Où la réunion et la signature auront-elles lieu, monsieur le vice-président ?» demanda Holmes. Stevenson prit encore une fois le temps de réfléchir.
« Eh bien, nous signerons dans ce que nous appelons aujourd'hui la petite salle des traités. »
Serait-ce par hasard une pièce dans l'aile nord dont la fenêtre donne sur le parc ? Celle qui est juste en face de la maison de monsieur Henry Adams ? Celle qui servit de bureau et de salle de réception à la sœur du président Cleveland pendant le premier mandat de monsieur Cleveland ?
« Eh bien, ma foi, oui, je pense, » répondit le vice-président.
Holmes se tourna vers M. Drummond, le brillant chef du Secret Service au département du Trésor, et Daniel O'Malley. Le sergent O'Malley n'avait pas semblé particulièrement malin à Holmes lors de leurs premiers échanges. « Nous avons reçu des informations fiables, nous avertissant qu'un attentat allait être commis contre le vice-président Stevenson à la même heure que celui qui visera le président à Chicago. » La petite salle des traités est directement visible des fenêtres de M. Henry Adams à moins de 200 mètres. « Voulez-vous que nous demandions à déplacer cette signature dans une autre pièce ? Sans qui le sergent O'Malley ?
Je suggère d'interdire la Maison Blanche au vice-président et à ses invités toute la journée. Vous pourriez choisir une pièce intérieure des locaux du département d'État, mais en entourant ce changement de programme du plus strict secret. »
Voyant Drummond hocher la tête, Holmes eut la certitude que ce serait fait. Il suffirait d'un bon fusil de chasse pour atteindre une cible située dans la petite salle des traités depuis la fenêtre des Adams, insista-t-il.
« Monsieur Adams ne laisserait jamais entrer d'éventuels tireurs, » objecta le sergent O'Malley. « Le voisin immédiat de Monsieur Adams est le colonel John Hay, »
indiqua le divisionnaire Moore de la police métropolitaine de Washington.
« Nous ne pouvons pas déranger des gens aussi importants simplement parce qu'ils sont proches de la résidence présidentielle. »
« Bien sûr, » concéda Holmes. « Je vais étudier la question et nous en reparlerons la semaine prochaine. »
promit Andrew Drummond. Holmes comprit que la maison des Adams allait être fouillée de fond en comble, les angles de tir analysés par des spécialistes, et il devina que le chef du Secret Service placerait des hommes à cet endroit le 1er mai, bien qu'aucune responsabilité officielle de protection présidentielle ne soit dévolue à son département. « Sergent O'Malley, » s'enquit Holmes. « Avez-vous toujours l'intention d'envoyer un détachement de deux hommes de la garde de la Maison-Blanche avec le président, comme c'est parfois la coutume ?»«
C'est-à-dire ?»
bégaya O'Malley en regardant autour de lui comme s'il espérait qu'on lui souffle la réponse.
Vous trouveriez que ça serait moins pire si j'en envoyais plus ou si j'en envoyais moins ?
Mieux ! Aboya Holmes qui ne supportait pas qu'on maltraite la grammaire.
Mais mieux plus ou mieux moins que les deux habituels ?
Le vice-président Stevenson jugea bon d'intervenir, adressant le plus léger des clins d'œil à Holmes.
Nous savons que la Maison Blanche est directement menacée, chef O'Malley. Le colonel Sébastien de Moran est un tireur chevronné, un mercenaire, contrairement à ces ombres après lesquelles court la police. Il serait sans doute plus sûr de laisser les 27 hommes de votre excellente garde de la Maison Blanche à la résidence présidentielle ce jour-là. Après tout, vous avez pour mission de préserver la Maison Blanche de toute intrusion et non de suivre le président pour le protéger dans ses déplacements extérieurs.
C'est vrai, acquiesça O'Malley. C'est à la police de Chicago de protéger le président. La ville qui l'accueille est tenue d'endosser cette responsabilité.
Seulement partiellement, intervint le chef du Secret Service. Holmes se tourna vers Drummond.
C'est-à-dire ? Demanda le divisionnaire Moore.
Dans les instants qui avaient précédé le début de la réunion, Holmes avait pris Drummond à part pour lui demander s'il était vrai que Chicago avait le piètre honneur d'abriter la police la plus corrompue du pays. Drummond avait lentement hoché la tête.
Maintenant que les derniers complices de Tweed ont été chassés de New York, et en attendant que de nouveaux politiciens véreux prennent leur place, Chicago est effectivement passé en tête de liste. La corruption coule dans les veines de la police aussi abondamment que l'alcool. Mais il reste de bons éléments dans les services, et sur plusieurs centaines de fonctionnaires, très peu seulement prêteraient leur concours au meurtre d'un président.
Holmes avait approuvé. O'Malley se hérissa.
Et pourquoi la police de Chicago ne serait-elle pas chargée de la sécurité du président ?
Mais si, elle veillera sur lui depuis les portes de l'hôtel Lexington jusqu'à celle de l'exposition universelle, expliqua Holmes.
Cependant, une fois que la procession entrera dans l'enclos sacro-saint de l'exposition, cette fameuse ville blanche de Jackson Park, avec ses 40 ou 50 autres personnalités importantes, le président du Brésil étant, paraît-il, le plus populaire, la responsabilité passera à la garde colombienne.
Qu'est-ce que c'est que la garde colombienne ? Demanda O'Malley.
Ce fut Drummond qui répondit.
C'est la police privée spécifiquement formée par Daniel Burnham pour l'exposition.
Et la police de Chicago ?
Insista Moore.
Elle ne sera pas présente. Dans l'enclos de l'exposition, la garde colombienne aura tout pouvoir d'arraisonner, d'interroger et incarcérer. Elle disposera même d'une jolie petite prison à côté du Midway Pleasants. Mais sa tâche consistera essentiellement à récupérer les enfants perdus, à empêcher que l'abus d'alcool ne donne lieu à des désordres sur la voie publique, et à renseigner courtoisement les centaines de milliers de visiteurs venus s'amuser.
Combien de ces policiers privés seront-ils présents ?
Demanda le vice-président Stevenson.
Un peu plus de 2000, répondit Holmes.
2000 !
Explosa le divisionnaire Moore.
Mais c'est une armée !
Je pense que c'est bien l'objectif de Daniel Burnham, commenta Holmes. La ville blanche sera électrifiée comme cela n'a encore jamais eu lieu, ni à Chicago, ni à New York, ni à Washington. Il y aura de belles illuminations dans les rues, des lanternes électriques un peu partout, des projecteurs mobiles, les devantures de magasins et les fenêtres brilleront de mille feux. Des cheminements éclairés parcourront les 250 hectares de l'exposition. Grâce à cela, ainsi qu'au plus haut pourcentage de policiers en uniforme et en civil jamais connus par rapport à la population, la Ville Blanche sera l'environnement urbain le plus sûr au monde.
Ce qui compte surtout, c'est que l'endroit soit sûr pour le président Cleveland pendant les quelques heures de sa présence,
intervint le vice-président.
Comment la garde colombienne sera-t-elle armée ?
Demanda Moore. Holmes sourit.
Eh bien, pour l'essentiel, les hommes disposeront d'un sifflet et d'une dague dans un fourreau.
Henry Adams entra dans son bureau vêtu de sa robe de chambre et chaussé de pantoufles. Il fronça les sourcils en découvrant le détective qui ne se leva pas.
« Je vois que vous avez pris vos aises, monsieur Holmes. »
Holmes se contenta de sourire.
« Et je ne doute pas que vous en avez profité pour fouiller dans mes tiroirs et mes placards. »
« Uniquement pour me servir un verre qui m'a accompagné dans cette longue attente, monsieur Adams. Le whisky est excellent.
J'espérais ne plus jamais vous revoir. »
Holmes hocha la tête.
Adams fit le tour de sa table de travail et hésita comme s'il se demandait si l'occasion méritait qu'il s'assoie ou s'il devait rester debout. Il s'assit.
Je croyais m'être bien fait comprendre lors de notre dernier entretien, monsieur Holmes. Ne vous ai-je pas dit que nous n'allions plus nous rencontrer ni en public, ni en privé ?
Holmes sortit de sa poche l'une des cartes de visite portant les mots « Elle a été assassinée » et la posa sur le buvard vert du sous-main d'Adams.
« Cela ne me concerne en rien », protesta Adams.
Il déchira la carte en 1000 morceaux et la jeta dans la poubelle.
Ned Hooper m'a engagé pour découvrir qui envoyait tous les ans ses bristoles aux membres encore vivants des cinq de cœur. Comme il n'est maintenant plus de ce monde, vous êtes, à travers votre regrettée épouse, le seul de ses parents auquel je puisse faire mon rapport. Vous avez reconnu vous-même n'avoir rencontré Feu, le frère de ma femme, qu'une seule fois il y a 2 ans, et ce pendant moins d'une heure. Je ne vois d'ailleurs pas ce qui vous donne le droit d'appeler Edward Ned, comme le faisaient les membres de sa famille et ses amis. Si vous voulez parler de lui, je vous prie de dire Monsieur Hooper.
Parfait.
Monsieur Hooper m'a payé pour que je mette mes talents de déduction à son service et que je découvre qui envoyait ces messages. Et aussi, pour le citer très exactement, pour savoir si Clover s'est vraiment donné la mort volontairement ou si elle y a été poussée par des moyens criminels. En l'absence de Monsieur Hooper, c'est à vous que je vais donner mes conclusions.
Adams avait tourné le visage vers les fenêtres, mais à ces mots, il jeta un regard à Holmes.
« Vous savez qui envoie ces messages depuis 7 ans ?»«
Oui. » Une bûche carbonisée se brisa dans l'âtre. Adams entretenait toujours un feu dans la petite cheminée de son bureau, même au printemps quand la température se réchauffait.
Holmes se demanda si l'historien était particulièrement frileux.
Après un long silence, Adams s'impatienta.
« Alors, vous allez parler, oui ou non ?»«
Non. »
Le visage de Henry Adams s'empourpra tandis que ses lèvres devenaient livides.
Vous venez de me dire que puisque Ned s'était suicidé en décembre, vous vous sentiez tenu de me faire votre rapport et maintenant vous refusez de me révéler l'identité de la personne qui nous persécute depuis 6 ans? Vous avez un toupet extraordinaire!
Si j'avais quelques années de moins, monsieur Holmes.
Holmes inclina la tête, prenant bonne note du courroux de l'érudit.
J'ai découvert par déduction qui avait tapé et envoyé ces cartes, expliqua-t-il, mais je dois d'abord m'entretenir en privé avec cette personne. Or, il ne m'est pas possible de le faire dans l'immédiat. Nous devons attendre la première semaine de mai.
En résumé, vous jouez aux devinettes?
Absolument pas.
Sherlock Holmes rassembla le bout de ses longs doigts sous son menton et son regard se perdit dans le lointain. Ses traits, si souvent impassibles quand ils n'étaient pas agités par une vive stimulation intellectuelle, avaient pris l'expression de la plus profonde gravité. Sans être directement visé par sa réprobation, Henry Adams en éprouva un fort malaise.
J'imagine que vous n'avez rien découvert d'autre sur le mystère de la mort de ma femme, qui n'a jamais été un mystère d'ailleurs.
Adams se reprocha aussitôt cette formulation maladroite, restant toujours et en toutes circonstances auteur et correcteur attentif de ses œuvres.
Holmes sortit de ses réflexions.
« Oh, si, » dit-il d'un ton presque désinvolte. « Je sais, au-delà du moindre doute, que Clover, Madame Adams, a bien été assassinée. »
Le choc fut tel qu'Adams mit 30 secondes à recouvrer l'usage de la parole.
« Assassinée ? Mais comment ? Par qui ? Et pourquoi ?»
J'aurai la réponse à ces 3 nouvelles questions avant la fin de la quinzaine. Quant au comment, il ne fait aucun doute que sa mort a été causée par l'ingestion de ses propres produits de développement photographique à base de cyanure. Toutefois, la question reste entière, car il reste à déterminer comment le poison a été administré.
« Donc, en somme, vous êtes encore en train de jouer aux devinettes !» protesta Adams.
« Je ne joue jamais aux devinettes. »
« Et avez-vous malgré tout la moindre idée d'un suspect, comme on dit dans les enquêtes fantaisistes qui vous mettent en scène ?»«
Seules 3 personnes peuvent être l'assassin, et vous êtes la 3e. »«
Moi !» se récria Adams en se levant d'un bond. « Vous êtes le plus odieux, le plus insupportable des... »
À court d'épithètes, Adams empoigna sa canne qui était appuyée à son fauteuil.
« Vous aviez le temps d'agir. Vous connaissiez l'existence du poison et vous y aviez accès, » poursuivit Holmes.
« Quant au mobile, le meurtre d'un conjoint est toujours motivé par des raisons fort compliquées, personnelles et obscures. Dans le cas présent,
Tout le monde sait que votre femme a toujours eu une tendance à la mélancolie. Même pendant votre longue lune de miel en Égypte et ailleurs, elle avouait dans sa correspondance à son père qu'elle était reprise par sa vieille ennemie, la mélancolie. C'est ainsi qu'elle le formule, il me semble. Au point qu'elle ne vous avait pas adressé la parole à vous, son nouveau mari, ou parlé à qui que ce soit d'autre pendant près de 2 semaines. La persistance d'une telle mélancolie au cours des ans peut pousser à bout n'importe quel époux, et vous reconnaissez vous-même qu'elle était plus particulièrement abattue et envahie par une tristesse malsaine depuis la mort de son père en mars 1885. Henry Adams grinça des dents si fort que le bruit domina les crépitements du feu. Il brandit sa lourde canne comme une batte, les doigts blanchis tant il les serrait. Holmes ne fit pas un geste pour s'écarter de l'homme, canne levée et vibrant de colère. La sienne était appuyée à un autre fauteuil à 2 mètres. Il ne chercha pas à la récupérer et resta calmement assis, les yeux posés sur Adams, les mains croisées sur ses genoux. Adams laissa retomber sa canne sur le tapis persan et s'écroula dans son fauteuil, se couvrant les yeux. Au bout d'un moment, il soupira. « Vous devez certainement savoir que je n'ai pas tué ma très chère Clover, que j'aimais tant. » « Oui, je le sais », assura Holmes, coude posé sur les bras du fauteuil, menton appuyé au bout des doigts. « Je dis simplement ce que tout bon officier de police aurait été en droit de croire, et surtout un procureur, pour peu qu'il soit compétent et consciencieux. Si l'enquête n'avait pas été menée de manière aussi superficielle à cause de votre statut social et de votre fortune, on aurait à coup sûr abouti à cette conclusion, et le jury vous aurait fort probablement condamné à mort si vous aviez été inculpé. » Adams fut de nouveau réduit au silence, sidéré. Il jeta un regard à Holmes à travers ses doigts comme un enfant qui se cache au fond d'un placard, terrorisé par des monstres. Vous aviez la possibilité d'agir. Vous saviez où Madame Adams rangeait ses poisons mortels. Et aucun domestique présent ce matin-là ne vous a vu partir à ce soudain rendez-vous chez le dentiste. Comme vous n'êtes pas allé chez le dentiste du tout, vous auriez pu rester à 100 mètres de chez vous, du côté du parc, pour attendre l'arrivée de Rebecca Lorne à votre porte. C'est elle votre alibi d'une certaine façon.
Si vous pensez tout cela, alors pourquoi ne croyez-vous pas que je suis coupable du meurtre ?
Holmes se leva et alla ouvrir le meuble où étaient rangées les bouteilles. Il se resservit un fond de whisky et versa une généreuse dose de brandy dans un autre verre qu'il posa devant Adams, sur le bureau, plutôt que de le lui tendre directement. Je vous sais innocent, non seulement à cause des qualités que je vous connais, mais aussi parce que vous n'avez pas vu Rebecca Lorne devant votre porte hésitant à frapper comme vous l'avez affirmé dans votre déposition. En fait, vous avez vu Mademoiselle Lorne sortir de chez vous en courant, laissant la porte grande ouverte, proche de la crise de nerfs. C'est elle et non pas vous qui a découvert le corps de Madame Adams.
Comment le savez-vous ?
Demanda Adams avant de prendre une grande gorgée de brandy. Je sais que vous vous êtes précipité pour aller chercher votre médecin qui vit à 500 mètres et que vous êtes revenu toujours au pas de course avec lui. Le docteur Charles E. Hagner a plus tard déclaré à la presse que la fiole de cyanure de potassium était toujours ouverte et dégageait ses vapeurs néfastes sur une table de l'autre côté de la pièce, à l'opposé de l'endroit où le corps de Madame Adams était tombé à terre, devant son fauteuil préféré, et qu'un verre d'eau vide gisait sur le tapis près d'elle. Le docteur Hagner a aussi rapporté qu'à votre arrivée à tous deux, Mademoiselle Rebecca Lorne attendait dans la chambre voisine de celle de Madame Adams et qu'elle attendait dans un tel état nerveux qu'il a dû lui administrer un tranquillisant. Le rapport d'enquête a été rédigé par le lieutenant Hamon, arrivé sur les lieux avec 2 de ses hommes une 20aine de minutes après vous et Hagner. Il n'est cependant resté que 2 minutes car vous avez demandé à ce que l'on vous laisse seul avec le corps de votre femme. Le rapport mentionne la position du corps et de la fiole de cyanure que l'on avait refermée, mais il ne parle pas du verre d'eau sur le tapis.
La scène restera à jamais gravée dans ma mémoire, dit Adams. Et je ne me souviens d'aucun verre d'eau par terre.
La bouteille de poison se trouvait sur la table, assez loin de l'endroit où Madame Adams gisait sur le tapis avant que vous ne transportiez son corps sur le canapé. Holmes se tapota les lèvres avec ses index réunis.
Tout le monde s'accorde sur ce point.
Et pourtant, on a trouvé un peu de ce produit chimique près de l'endroit où est tombée votre femme.
Votre gouvernante a précisé que le terrible liquide avait attaqué le bord du tapis et quelques centimètres de plancher. D'après ce que je sais, elle a dû demander à vos gens de couper la laine du tapis et de rénover la lame de parquet pour se débarrasser des taches. Adams s'empourpra de nouveau.
Ma gouvernante a eu l'audace de discuter avec vous de...
Holmes l'arrêta d'un geste. Malgré la brièveté de l'enquête, les domestiques ont dû faire des dépositions à la police pendant les tristes heures où vous étiez prostré dans votre malheur. Je sais que vous avez passé 2 jours et 2 nuits seul avec le corps et que vous n'avez annoncé ni l'heure ni le jour de l'enterrement, le 9 décembre, à vos 3 amis survivants des 5 de cœur. Cette information sur le tapis et le plancher taché se trouve dans les notes du lieutenant Hamon.
Mais quelle importance à la fin !
Il y avait un verre à eau vide à côté du corps de Madame Adams qui avait de toute évidence servi à contenir le poison. Le liquide a dû se répandre quand Madame Adams a lâché le verre et salir le tapis et le plancher. Ce verre y était toujours quand vous êtes arrivé avec le docteur Hagner, mais avait disparu quand l'inspecteur Hamon est monté 1/2 heure plus tard. Holmes se pencha vers Adams, son regard gris d'oiseau de proie posé sur lui. Quelqu'un a enlevé ce verre au cours de cette 1/2 heure. Votre gouvernante, Madame Soames, a dit à la police 3 jours plus tard qu'il y avait seulement 11 verres à eau dans le placard de l'office où ils sont rangés. Ce verre faisait partie d'un service de 12. Adams termina son brandy d'un trait.
Mais qui aurait pu faire ça? Qui aurait pu prendre ce verre mystérieux que je ne me rappelle pas avoir vu? La police, peut-être?
Ce n'est pas dans les rapports.
Je ne comprends pas, je ne comprends rien à ce que vous me racontez sur ce verre à eau et sur la fiole de cyanure,
bégaya Adams.
Qu'est-ce que ça change?
Pour faire boire quelqu'un, il est beaucoup plus facile de se servir d'un verre que d'une fiole, expliqua Holmes. Le regard d'Adams devint un peu fou.
Comment ça? Vous pensez que quelqu'un a obligé Clover à boire ce terrible poison?
Oui, c'est ce que je crois. Ce qui nous amène à une question très pratique. Y avait-il habituellement des verres à eau dans la chambre de Clover?
Non, répondit Adams atterré. Clover avait peur de laisser des auréoles sur les meubles.
Dans la salle de bain attenante, alors?
Non plus. Il y a des verres dans nos salles de bain, mais pas ce genre de verre à eau. D'ailleurs, celui de Clover était toujours là quand je suis allé dans sa salle de bain quelques jours plus tard.
Depuis le moment de votre départ de la maison pour aller chez le dentiste et celui où vous avez fait 2 demi-tours à cause des hurlements que poussait Mademoiselle Lorne en sortant de chez vous, Holmes remarqua qu'Adams ne l'interrompait pas pour contredire cette nouvelle version des événements. Madame Adams aurait difficilement eu le temps de descendre pour aller chercher un verre à l'office. Et tout cela sans être vue par Madame Ryan, votre cuisinière, qui s'affairait dans la cuisine à cette heure. Il lui aurait ensuite fallu remonter et retraverser la maison pour aller dans sa chambre noire, ouvrir la petite armoire fermée à clé où elle rangeait ses produits de développement, puis retourner dans sa chambre pour avaler le poison. Adams secoua la tête en plein désarroi.
Vous sous-entendez que quelqu'un aurait monté le verre et pris la fiole de poison et que cette personne attendait cachée quelque part à l'étage et nous épiait pendant que je parlais à Clover avant de partir? Attendant qu'elle soit seule?
C'est plus qu'envisageable.
Et cette personne devait être Rebecca Lorne, que Clover aimait, en qui elle avait confiance, et qui m'a soutenu dans les jours qui ont suivi, là.
Balbutia Adams.
Cela ne pouvait être que Rebecca Lorne, parce qu'elle est la seule à avoir pu subtiliser ce verre entre l'arrivée du médecin et celle de la police.
Il est presque certain que c'est elle qui a emporté le verre, en effet, approuva Holmes. Mais elle n'est pas la seule suspecte du meurtre. Il pouvait y avoir quelqu'un d'autre. Adams dévisageait Holmes avec une telle intensité que le détective eut presque une sensation de brûlure. Clifton Richards, le cousin de Mademoiselle Lorne, est peut-être impliqué, ajouta Holmes. Il est possible qu'il se soit trouvé dans la maison et qu'il soit descendu par l'escalier de service pour sortir sans bruit, alors que Rebecca Lorne montait en courant par l'escalier principal pour mettre en garde Madame Adams.
« Pour la mettre en garde ?» répéta Adams médusé.
« Monsieur Holmes, ajouta-t-il, qui a tué ma femme ?
Je vous en conjure. Si vous le savez, dites-le-moi.
Je ne le saurai avec certitude que dans les quelques semaines à venir. C'est pourquoi je dois vous demander un service. »
Adams inclina la tête presque imperceptiblement.
J'ai réussi à persuader John Hay et Cabot Lodge d'avancer de 2 semaines leur voyage à l'Exposition universelle de Chicago. Ils assisteront ainsi à l'inauguration officielle du 1er mai, étant arrivés en train dans leur wagon privé 1 ou 2 jours auparavant. Le sénateur Cameron sera aussi de la partie et séjournera dans son bateau de plaisance. Le Great Lake Yacht, c'est son nom, qui sera amarré au ponton de l'exposition.
Vous êtes en train de me demander d'aller à cette maudite exposition pour découvrir qui a assassiné ma femme et livrer la ou le criminel à la justice?
Exactement.
Très bien. Dans ce cas, j'irai avec Cameron, Hay, les Lodge et toute la compagnie. Pourtant, l'exposition universelle de Philadelphie m'a paru mortellement ennuyeuse quand je l'ai visitée.
Holmes ne cacha pas son sourire. Alors qu'il s'apprêtait à prendre congé, Adams lui agrippa le bras.
Mais qui aurait eu intérêt à tuer Clover?
Qui aurait pu vouloir la mort d'une femme aussi charmante, spirituelle, triste et solitaire?
Holmes se rassit et plongea la main en soupirant dans la poche intérieure de son veston. Il en sortit une petite enveloppe bleue nouée d'un ruban rose. Elle avait été ouverte. Holmes en tira la feuille de papier à lettres et laissa à Adams le temps de mettre ses lunettes. Il la tint devant lui pour lui permettre de la lire à distance par-dessus le bureau. Henry Adams reconnut sa propre écriture. Il poussa un cri inarticulé et avança brusquement la main pour arracher la lettre à Holmes.
« Non !»
s'écria ce dernier en la mettant hors de portée. Il la plia et la remit dans sa veste.
« Je ne vous laisserai pas la déchirer comme vous l'avez fait pour le Bristol tout à l'heure. »« Cette lettre m'appartient !»«
Légalement, oui, même si elle était en la possession d'une autre personne. »«
Mais pourquoi, Lizzie ? Comment avez-vous ? Pour quelle raison vous aurait-elle donné cette lettre intime ? La plus grande folie de ma vie !»«
Elle ne me l'a pas donnée, » répondit Holmes. « Elle ne sait pas que je l'ai prise. »« J'ai dû la lui emprunter. »
Quand mon enquête sera terminée, je la remettrai à l'endroit où elle la cachait.
Votre enquête ! Persifla Adams avec mépris. Une bonne excuse pour lire le courrier le plus intime, pour rentrer chez les gens nuitamment et voler.
Je vous assure que je la rendrai d'ici à quelques semaines. Madame Cameron ne saura même pas que j'ai sorti cette lettre de sa cachette. Je voulais seulement savoir quel moyen de pression Rebecca Lorne et l'homme qui se fait appeler Clifton Richards utilisaient pour faire chanter Madame Adams.
« Vous me dites maintenant qu'on la faisait chanter ?»
s'exclama Henry Adams à bout de nerfs.
« Alors c'est moi, en fin de compte, qui ai tué Clover ? C'est moi, la cause de la mort de ma bien-aimée ?»
Non. Pour résoudre cette affaire, je me suis vu contraint de trouver et de lire cette lettre. Mais je vous assure que je n'en ai retiré aucun plaisir. Et je n'ai rien vu de répréhensible dans ces lignes. C'est la lettre d'un homme terriblement triste qui a été quasi abandonné par une épouse submergée par la mélancolie et pas seulement depuis quelques mois mais depuis des années. Une lettre écrite lors d'une insomnie à une femme qu'il connaissait et admirait beaucoup. C'était de la folie, oui, mais une folie profondément humaine et compréhensible.
Nous sommes allés chez les Cameron le 4 décembre au soir,
rapporta Adams comme en transe le regard perdu au loin.
C'est-à-dire 2 jours avant la mort de Clover. Lizzie Cameron avait été malade et Clover s'inquiétait pour elle. Elle savait, comme nous tous, que l'une des principales causes des souffrances de Lizzie est le mariage sans amour qui l'unit à Don. Clover trouvait cela très triste. Ce soir-là, nous avons emmené Rebecca Lorne chez les Cameron. Il faisait très doux, je me souviens, pour un mois de décembre. Pour faire plaisir à Lizzie, Clover lui avait apporté un grand bouquet de roses Maréchal Neil jaunes. On n'en trouve pas facilement en décembre à Washington. Et elle est montée avec Rebecca dans la chambre de Lizzie pour lui offrir ses fleurs. Connaissez-vous le langage des fleurs, Monsieur Holmes?
Très imparfaitement. Adams eut un sourire triste.
Dans le langage des fleurs, qui fait fureur aujourd'hui. Les roses jaunes signifient « je vous aime de toute mon âme ». Voilà ce qu'elle a offert à Lizzie Cameron moins de 48 heures avant sa mort.
C'était à vous qu'elle destinait ce message,
murmura Holmes.
Adams branla du chef. Si Clover connaissait l'existence de la lettre impulsive et folle que j'avais envoyée à Lizzie au mois de juillet, cette lettre-là, ajouta-t-il en désignant la poche de Holmes, si Rebecca Lorne avait cherché à la déstabiliser en lui apprenant l'existence de cette lettre ou même seulement la possibilité de son existence. Et si Clover avait supplié Lizzie de lui dire que c'était vrai? Et si Lizzie n'avait pas nié?
Holmes tendit le bras au-dessus du bureau pour poser la main sur le bras d'Adams.
Ne vous laissez pas emporter par votre imagination, Adams. Vous savez à quel point Clover avait bon cœur. Ce bouquet offert à son ami malade n'était certainement rien d'autre qu'une preuve de son affection.
Mais Holmes savait qu'il y avait eu une confrontation à propos de la lettre ce soir-là. Clover avait demandé à Lizzie de lui révéler la vérité. Elle voulait savoir si une telle lettre avait été envoyée par son Henry. Lizzie, malade et de très mauvaise humeur, avait laissé libre cours à son ironie mordante sans toutefois nier. Elle s'était même moquée de ses visiteuses parce qu'elles insistaient pour voir un document aussi étrange. Holmes le savait, car non content de subtiliser la fameuse lettre qu'il avait découverte avec d'autres retenues par du papier collant à l'envers du fond d'un tiroir de la commode de Lizzie Cameron, il avait aussi emprunté son journal intime de l'année 1885 et y avait lu l'entrée de la première semaine de décembre. Le journal avait été remis à sa place, mais le détective avait l'intention de garder jusqu'à ce que l'affaire soit réglée la lettre du mois de juillet, ainsi que d'autres soustraites chez d'autres personnes par des méthodes tout aussi douteuses. Holmes voyait qu'Adams était à bout. Voilà un homme qui était parti dans les mers du Sud après la mort de sa femme pendant plus de 3 ans et avait parcouru 50 000 kilomètres presque sans repos. Un homme qui avait fait jurer au grand sculpteur Saint-Gaudens de garder le secret du mausolée pour les vivants qu'il avait fait aménager à l'intérieur de l'extraordinaire sculpture dédiée non pas à la mémoire de sa femme, mais à la mémoire de son propre chagrin. Holmes se leva et, chapeau et canne à la main, il sortit un dernier papier de sa veste. « Hay m'a donné ceci, mais tous vos amis en ont pris connaissance, Adams. » « Clover, Madame Adams, a commencé une lettre à sa sœur Hélène juste après votre soi-disant départ chez le dentiste ce dimanche-là. Je me doute que vous la connaissez par cœur, mais je veux vous en lire un passage qui vous aidera peut-être à prendre un peu de recul. » Si j'avais la moindre force, la moindre qualité, je pourrais m'y appuyer pour retrouver goût à la vie. Henri est plus patient et aimant que je ne puis l'exprimer. Il ferait envie même au bon Dieu. Il endure, il espère et désespère heure après heure. Henri est au-delà de toute expression encore plus tendre et meilleur que vous tous même. Holmes replia le papier et le remit dans sa poche à côté de la lettre bleue. Elle a tracé ces mots, monsieur Adams, après avoir appris l'existence de votre lettre à Lizzie Cameron. Elle vous avait déjà pardonné. Adams se leva et posa un regard indéchiffrable sur le détective. Quand faut-il que nous nous revoyions, monsieur Holmes? Quelle nouvelle épreuve insupportable me préparez-vous? Nous préparez-vous à tous. Nous avons rendez-vous à Chicago, répondit Holmes. Sur quoi il sortit discrètement sans déranger le majordome.